Je suis avec Kamal Moussalé à Genève. Il est venu à Genève pour rencontrer justement et parler de son film Curry Western. Bonjour, namasté.
Bonjour, comment allez-vous?
Namaskar. Bien, merci. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce film, de la naissance de ce film, ce projet? On suit Sheila qui apprend que son père a été tué apparemment par un tigre, Big T. Et elle est en couple, mais c'est un couple qui ne va plus très bien avec son mari qui est canadien, anglophone. Ils vivent à Londres. Elle, elle est militante, elle veut protéger les arbres, la nature. Et en même temps, elle se fait licencier parce que voilà, il y a eu un petit incident, on ne va pas tout dévoiler du film. Comment est né ce projet?
C'était au départ l'idée de faire une comédie sur le thème de la propriété, ou plutôt les conflits de propriété. Donc il y avait un peu l'idée déjà de...
Donc on parlait de, du projet qui est né sur en fait la propriété.
C'était l'idée de faire une comédie sur, le, sur les conflits de propriété. Les conflits de propriété, parce que je pense que souvent les conflits de propriété, c'est à la base d'à peu près n'importe quel conflit humain, et qui sont souvent déguisés en conflits religieux ou en instrumentalisés de toutes sortes de façons. Mais toujours à la base, c'est quelque chose de vraiment qu'on retrouve même dans chez les animaux, quoi, l'idée de défendre son territoire, mais aussi parce que son territoire, c'est parler de son identité. Ça résume son identité. On est qui on est parce qu'on vient d'où on vient. Et pour moi, c'est toujours un sujet intéressant sur cette identité, parce qu'étant moi-même moitié suisse, moitié indien et vivant dans des pays différents, cette notion d'appartenir à un sol est d'autant plus criante pour moi quand je vois à quel point il y a une différence entre les gens qui sont très attachés à leur sol et d'autres qui le sont moins. Voilà, donc c'était l'idée de faire une comédie sur ces thèmes. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était intéressant de situer l'histoire en Inde avec une indienne
qui est... Métissée déjà.
Une complètement indienne, pas métissée indienne du tout, mais dont le père a quitté la famille et qui a horreur de sa culture d'adoption, enfin sa culture
d'origine
de son père, dans la culture d'origine. Et à cause de ça, qui refuse d'être indienne. Il y a un Suisse qui est parti en Inde et qui lui fait des fromages là-bas, mais qui a décidé de devenir plus indien que les Indiens, qui se sent brun à l'intérieur et à cause de ça, refuse aussi son origine. Et ces personnages vont se rencontrer et à travers, de façon différente, vont renouer avec leur nature, si on veut bien, vont s'accepter pour ce qu'ils sont, ou plutôt vont se révéler à ce qu'ils sont.
Et le personnage du mari, lui, il se sent délaissé. D'ailleurs, à un moment donné, il fait plus partie. Après, une triangulation quand même amoureuse. Et on ne va pas raconter la fin, ça serait dommage pour les spectateurs. Mais en fait, c'est aussi l'histoire d'un couple qui est en délinquescence, qui n'a plus de communication et qui ont besoin de ce périple un peu initiatique pour retrouver une communication.
Oui, c'est typiquement un couple qui n'arrive pas à évoluer ensemble. C'est un couple qui se ferme l'un sur l'autre, donc pour évoluer effectivement cette aventure les met face à une sorte de personnage catalysateur qui révèle chez eux en fait ce qu'ils ont vraiment envie d'être et qui les permet d'accéder à une forme de liberté. Ils y arrivent, hein, même si la fin est une fin un peu morale. Parce que c'est une comédie noire, donc il faut aussi une morale pour expliquer pourquoi les choses sont aussi grinçantes. Mais c'est aussi une comédie désopilante, c'est aussi quelque chose avec beaucoup de sourire et beaucoup de situations dédramatisées par le burlesque. Mais d'une certaine manière, ils arrivent tous les deux, ces personnages, à se trouver, en fait, à se libérer.
Il y a un protagoniste dont on ne parle pas, c'est la nature. On est dans quelle région d'Inde? Il y a des magnifiques temples, stupa, il y a un arbre sacré.
Oui, l'arbre sacré est en fait une construction, le banyan qui est là-bas. Mais on a situé l'histoire dans un paysage que j'avais découvert il y a une quinzaine d'années en Inde, qui est à Hampi, au Karnataka, qui n'est pas très très loin de Goa. C'est le début du sud de l'Inde et c'est un endroit où les gens parlent le Canada, là-bas. Et donc on a tourné ce décor magnifique qui est composé d'immenses rochers, d'immenses boldeuses. Et c'est des grands rochers ronds, beaucoup de gens vont faire de l'alpinisme là-bas. Et ça donne un paysage qui est aussi, il y a aussi beaucoup de temples parce que c'est un endroit de pèlerinage. C'est là où le dieu Hanuman, le dieu singe, aurait frappé un volcan avec sa grande massue et des milliers de blocs, des milliers de pierres se seraient dispersés sur un rayon d'une centaine de kilomètres. Et c'est ces boulders qu'on voit aujourd'hui. Donc Hampi, c'est là que beaucoup d'Indiens vont en pèlerinage pour visiter les temples et prier pour le dieu Hanuman.
Et puis alors, le personnage suisse, il est plus extrême que les autres, et c'est un éco-terroriste. Il veut défendre à tout prix, mais par tous les moyens, la nature.
Exactement, et c'est aussi une des questions du film. Quand on est prêt par tous les moyens à revendiquer son droit, en l'occurrence son droit sur la propriété, et qu'on ne fait aucun compromis, et ben, vous voyez ce qui arrive dans les conflits. C'est ce qui arrive dans notre film. Et puis la clé serait, en principe, pour éviter ça, de faire des compromis, et faire des compromis pour avoir la paix, faire des compromis dans la relation. Le compromis évite, en principe, d'envenimer les conflits.
Et alors, vous avez ces trois personnages principaux. Vous avez travaillé comment pour en fait, le choix des acteurs? Est-ce que c'était déjà en tête au moment de l'écriture?
Ben, le choix des acteurs, non, a été fait après, après l'écriture. J'ai fait un casting à Toronto pour trouver d'abord le protagoniste masculin. À l'époque, on faisait une coproduction avec le Canada. Et puis après, cette coproduction n'a pas fonctionné, donc on a fait une coproduction avec l'Angleterre. Là, j'ai trouvé une actrice anglaise. Et cette actrice était très bien. On a fait des tests, on a fait des répétitions, on a fait des costumes, on a fait... même des ateliers de corporels pour trouver les façons de marcher, d'être du personnage.
Et de s'agripper aux arbres.
Et de s'agripper aux arbres aussi. Et ensuite, on s'est retrouvé une semaine avant le tournage avec l'impossibilité d'avoir un visa pour elle. Et donc on a dû...
Pour l'Inde.
Pour l'Inde, oui, parce qu'elle est d'Angleterre. Et bien qu'elle soit d'origine indienne, elle était british de passeport. Elle ne pouvait pas avoir son visa pour toutes sortes de raisons qu'on a comprises un peu plus tard, mais ça nous a obligés à repousser le tournage, puis à la dernière minute à engager une autre actrice. Donc voilà, cette autre actrice se trouvait canadienne aussi, et elle a imité l'accent anglais très très bien. Et après pour les Suisses, c'est un des scénaristes qui est comédien, avec qui je travaille occasionnellement depuis qu'on est adolescent, donc on a un peu le même humour. Mais lui avait arrêté d'être comédien, donc il n'était pas vraiment question qu'il joue ce personnage. Et alors, finalement, j'ai fait un casting avec d'autres personnes. Ces autres personnes ne me convenaient pas vraiment exactement, donc je lui ai proposé de faire aussi le casting. Ce qu'il a accepté, et puis après avoir diffusé ses différentes vidéos de casting à des gens proches que je connais, mais qui ne connaissent personne, qui sont souvent à l'étranger. On était tous d'accord sur le fait que c'était lui vraiment le plus adéquat pour le caractère. C'est comme ça qu'il a accepté de se retrouver à Hampi avec des chèvres et des éléphants à jouer pour la caméra avec une grande barbe. Non, il n'a pas habituellement une grande barbe, des longs cheveux. Donc ça lui a demandé aussi un petit peu de préparation.
Métamorphose physique.
Oui, il a dû se préparer au rôle. Il est allé à l'avance avec les chèvres. Avec les paysans, enfin bref, il a fallu se mettre un peu dans le bain pour qu'ils soient crédibles.
Il y a quelques scènes avec les gens du CRU qui, par exemple, viennent régler son compte à justement cet éco-terroriste suisse. Ça, ce sont des acteurs ou ce sont des non-professionnels?
Non, la plupart, c'est des non-professionnels qui jouent parfois comme figurants dans des films qui se tournent dans la région. Mm-hmm. Parce que là-bas, il y a aussi une personne qui s'occupe un peu de rassembler des gens qui sont utiles pour les tournages de films. Donc voilà, et puis en même temps, c'est pas un film où on parle vraiment de la réalité indienne, c'est vraiment une comédie, c'est vraiment une fable, et là les figurants sont utilisés un petit peu comme dans les vieux films de Frankenstein, où il y a la foule qui veut aller tout d'un coup tuer le monstre Frankenstein, donc on voit une foule de paysans armés se diriger vers le château, voilà un petit peu l'usage des figurants indiens.
Alors on ne parle pas d'un personnage qui est quand même apparaît par touche comme ça de temps en temps. C'est l'avocat qui contacte Sheila pour lui annoncer que son père est mort et qui sera là jusqu'à la dernière séquence. Et l'avocat, donc, c'est aussi pour rappeler peut-être le propos initial du film, la propriété.
Oui, il y a quelque chose d'un petit peu, justement à la fin, il y a quelque chose d'un petit peu, on pourrait dire, pas cynique vraiment, mais plutôt un peu réaliste dans le dans l'usage de, enfin, disons, de la façon dont on utilise les espaces pour monétiser les territoires, pour monétiser. Il y a quelque chose dans le rôle de l'avocat qui montre qu'à la fin, quelles que soient les motivations des personnages ou leurs sentiments par rapport à leur terrain, à leur propriété ou à leur identité, ce qui par-dessus tout est toujours important, c'est l'argent.
Malheureusement. Donc c'est un petit peu la morale du film.
Non, la morale du film est vraiment de dire que pour éviter les guerres, pour éviter les conflits, il faut faire des compromis.
Et par rapport, on a parlé de la nature, par rapport à la bande son, là il y avait un travail avec aussi pour la technique avec des gens de l'Inde.
Non, la bande son, vous voulez dire la musique?
Oui.
Non, la musique a été faite par des filles de Lausanne qui ont fait un groupe à l'époque qui s'appelait Barbouze de chez Fior. Il s'agit de Laurence Crevoisier et d'Annie Prodi.
Elles ont vraiment trouvé des sonorités au début, par exemple, quand ils arrivent en Inde. On est vraiment immergé.
Oui, parce que Laurence, a été travaillée en Inde souvent, a appris la viole avec un gourou indien, enfin une gourou indienne, professeur de musique de viol indienne. Donc elle a pu, la capacité de pouvoir mettre un peu sur des mélodies qui sont entre le classique et le jazz, de rajouter par-dessus des viols indiennes. Et ça donne tout le parfum, tout en restant aussi occidental, en restant proche de notre sensibilité européenne au niveau de la musique, mais en rajoutant une teinture indienne. Oui.
Et alors, par rapport au propos au départ du film, Kamal, vous parliez de coproduction canadienne qui ne s'est pas faite, donc c'est quand même une coproduction internationale.
Oui, c'est une coproduction entre l'Inde, la Suisse et l'Angleterre. Mmh. Ça fait pas mal d'années que je travaille pour monter cette coproduction, parce que je voulais faire le film en anglais, et je voulais aussi qu'il soit vu par différents pays, donc pour moi c'était important de pouvoir monter cette production, et il fallait aussi une coproduction pour y arriver.
Gary Wassen sort sur les écrans ici en Suisse romande, il aura un parcours dans des festivals.
C'est pas vraiment un film de festival, c'est une comédie, et les comédies sont pas vraiment bienvenues en général dans les festivals. Les
ça
festivals,
dépend lesquels.
Oui, ça dépend, il y a des festivals de comédie, comme il est allé au festival de comédie à Vevey, il a passé au festival de Neuchâtel aussi. Récemment, il a fait quelques festivals aux États-Unis, en Angleterre. Je pense qu'on va peut-être arriver au bout de proposer le film à des festivals. On essaie de le mettre en salle, mais c'est pas facile avec des films indépendants, parce que le marché change complètement. Les films indépendants se retrouvent sur les plateformes online maintenant, à l'image d'Amazon, Netflix, bientôt Apple, pour les plus grosses. Et donc le marché de distribution change pour que les cinémas accueillent finalement plutôt des plus grosses productions ou des productions avec des stars. En fait, c'est en tout cas le souci des agents de vente qui n'osent plus parce qu'ils font beaucoup faillite maintenant. Donc ils essaient de se raccrocher à des grosses productions ou à des stars pour vendre leurs films à des distributeurs en salle.
Bankable.
En principe, mais c'est surtout une question de... C'est surtout une question de comment ça se passe vraiment entre l'agent de vente et le distributeur. C'est-à-dire, même si le public ne va pas voir des films parfois avec des stars, même si des films avec des gros budgets ne fonctionnent pas du tout au niveau financier, ça reste quand même sur le papier plus facile pour eux de vendre des choses connues que des choses inconnues.
Donc il est difficile quand même de pouvoir faire aboutir un projet comme celui-là, Curry Western. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, de pugnacité.
Faire un film, c'est toujours ça, quel qu'il soit, hein, que ce soit un film dramatique sérieux, que ce soit une comédie populaire, que ce soit un film d'auteur, ça demande toujours du travail. Après, il y a des bons et des mauvais films, mais après, il y a des films qui ont plus peut-être plus d'atouts pour être justement aperçus c'est comme par exemple si vous regardez, vous cherchez une comédie romantique sur Netflix, très souvent vous allez regarder qui joue dedans, parce qu'on a envie de savoir avec qui je vais passer, avec quelle compagnie est-ce que je vais passer 2 heures. Donc souvent les gens et moi-même, des fois je suis même un peu comme ça, je me dis, mais tiens, je préfère être avec tel type d'acteur pour tel type de film, à moins que le film soit vraiment original, vraiment intéressant et qu'on en entende parler. Et puis voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec notre film, de faire quelque chose d'original où on garde un sourire tout au long du film, faire une comédie qui est atypique, mais qui est quand même agréable et divertissante.
Alors, on a bien parlé du film, on va parler un peu de vous. Vous êtes né à Saint-Maurice, l'abbaye, le musée militaire, la chapelle du Cé. C'est pour ça qu'on devient cinéaste quand on est à Saint-Maurice. On a envie d'évasion.
Mais en fait,
je parle en connaissance de cause. Hein.
Ah ouais, non, je suis juste né à Saint-Maurice. J'habitais, ma famille habitait à B, dans le canton de Vaud. Et à partir de 3 ans, je suis parti à Vevey.
Donc
j'étais à Vevey.
Ah voilà, il y avait une ouverture sur le lac.
Oui.
Donc ça va.
Sur la France en face.
Voilà. Mais par contre, l'envie de plonger dans le 7e art, c'est venu à quand et comment?
Ouais, c'était quand j'étais gosse, et à environ 12 ans, j'ai acheté une petite caméra en Super 8. J'ai commencé à faire des films en Super 8, toutes sortes de fictions, des films d'horreur, des films d'aventure.
Avec des copains qui jouaient.
Voilà. Au début, c'était moi et un copain, et on se filmait l'un et l'autre. Et puis après, il y avait 3 copains, et après, il y en avait plus. Et petit à petit, on était plus, et on a fait aussi un long métrage comme ça. Et ensuite, je suis parti en Angleterre. Apprendre à comment travailler les professionnels que je n'avais jamais rencontrés avant, et surtout des plus grandes écoles anglaises, National Film School. Là, j'ai développé mon job de réalisateur et de scénariste. Puis après, ça m'a permis de travailler sur des gros plateaux anglais, américains. Et ça m'a appris le cinéma comme on le fait de manière anglo-saxonne.
Oui, une rigueur qui est quand même typique, ouais, justement, à la méthodologie anglo-saxonne. Rien à voir avec les Français, par exemple.
Très différent. Il y a vraiment un professionnalisme qui est particulier. Maintenant, j'ai peu travaillé avec les Français. J'ai des amis qui travaillent sur des productions françaises, donc c'est des gens bien aussi, mais évidemment. Hein. Mais, mais disons, c'est quand même assez différent. Ouais.
Vous avez plusieurs casquettes, un scénariste. Vous travaillez le montage, la photographie, évidemment la réalisation, pour la télévision aussi. Vous êtes avec la même intensité, la même énergie partout, il y a des choses que vous préférez?
Non, j'aime beaucoup le fait de pouvoir passer d'une occupation à l'autre. Ça veut dire que j'aime bien écrire, mais je ne peux pas faire ça tout le temps. Le montage, je l'ai toujours fait, mais modérément, parce que je ne pourrais pas être quelqu'un qui fait que du montage tout le temps. Ensuite, puis je l'ai fait pour moi, pour d'autres gens. La caméra, je filme depuis que je suis petit, donc c'est quelque chose un peu comme un instrument de musique qu'on aime bien jouer de temps en temps. Mais c'est comme, pour moi, c'est comme le jazz. Parfois, je joue avec d'autres gens. Parfois, sur ce film, je prends un chef opérateur. Parfois, j'ai été faire la caméra pour d'autres personnes. Mais c'est toujours au niveau des envies. Et puis depuis une vingtaine, 25 ans, j'ai une boîte de prod. J'ai ouvert une boîte de prod aussi en Inde. Donc ça me permet aussi
À Bombay.
À Bombay, oui.
Mumbai.
Ça me permet de démarrer mes projets, ça me permet de coproduire mes projets, voire de les produire. Et puis ça me donne un peu plus de liberté quand j'ai des projets que je veux absolument faire, mais qui sont difficiles à monter, par exemple. Et puis la réalisation, c'est peut-être la chose la plus, je ne vais pas dire la plus facile, mais la plus simple aussi, parce que enfin, c'est plus compliqué quand on est de petite production, mais quand c'est plus gros, il y a tellement de gens autour de soi qui poussent le bateau que voilà, c'est un peu plus facile que d'autres choses, peut-être.
Donc, Kamal, d'après ce que vous dites, on comprend qu'il n'y a pas de routine, en tout cas, et il n'y a pas de routine non plus au niveau des latitudes que vous fréquentez. C'est l'Europe, c'est l'Inde, aussi les pays anglo-saxons, vous bougez beaucoup.
Oui, ben, comme je fais depuis 12 ans, je suis à Bombay, je fais ce que j'appelle des Indian content for Western taste, voilà. Donc je fais des films depuis 12 ans en Inde, Indian content for Western taste, ça veut dire du contenu indien pour du goût européen, un petit peu comme on ferait de la cuisine indienne adaptée aux Européens.
Moins forte, mais qui est quand même épicée.
Voilà, de la même manière, ça m'oblige à avoir toujours un pied entre l'Europe et l'Inde. Et puis c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis pas mal de productions.
C'est stimulant aussi.
Oui, c'est intéressant. C'est fatigant aussi, mais après, j'aimerais bien un peu développer un peu plus mon amour de la cuisine, de la culture italienne.
Ah, ma che bello, aspettiamo questo. Et en attendant, on peut parler des projets, mis à part la sortie du film Curry Western sur les écrans.
Mais le prochain film que je vais faire, on va tourner en fin d'année un film sur Mother Teresa, qui sera tourné à Calcutta et à Bombay.
Documentaire?
Non, une fiction. Hein? Une fiction qui est en partie liée de l'histoire de Mother Teresa dans ses débuts. Lorsqu'elle a été appelée par Jésus à travailler avec les pauvres, dans les slums, et qu'elle a perdu la foi. Et en même temps, avec une histoire contemporaine d'une jeune femme qui va à Calcutta en même temps et qui, elle découvre, enfin, apprend à s'aimer elle-même. Donc c'est une histoire sur la compassion et puis c'est un peu pour moi l'occasion d'exprimer des choses que j'ai vues et ressenties non seulement en Inde mais dans d'autres pays comme en Amérique du Sud où j'ai côtoyé souvent les pauvres et les mourants. Et en Inde j'ai interviewé tellement de gens des slums, de villages, toutes sortes d'endroits que voilà, ce film-là va me donner un peu l'occasion d'exprimer des émotions qu'on contient. Quand on travaille avec les gens, quand on travaille avec les pauvres, on contient beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas être blasé, mais en même temps, on doit se contenir. Quoi. Et voilà, ça me permettra d'explorer ça.
Ça, c'est un travail qui va commencer cette année.
Oui, le projet, il existe depuis 2012. Donc, on travaille dessus le développement du script et tout ça depuis quelques années. Et maintenant, on va tourner en fin d'année et il sera terminé vers l'été l'année prochaine.
Alors, d'ici là, Kemal, on attend... sur les écrans romans Curry Western. Merci de nous avoir consacré du temps. Et puis bon repos pour ce passage en Suisse.
Merci beaucoup et puis bonne journée pour vous.
Merci.